Santé.
C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, bon lundi. J'espère que vous allez bien. Marianne Paquette au micro qui vous accompagne toute la semaine et qui débute cette première édition de la semaine de C'est bon pour la santé. Et j'y vais d'une grande révélation d'entrée de jeu. Je ne suis pas une grande consommatrice de télévision. D'ordre général, du moins, mais ces temps-ci, je suis complètement captivée, très, très fidèle au poste de Télé-Québec parce que je regarde une série qui s'appelle « De garde 24-7 » qui s'intéresse au quotidien de 8 médecins spécialistes et de leur équipe à l'hôpital Charles-Lemoyne. Donc, on les suit, ces médecins-là, dans leurs rencontres avec les patients, dans leurs interventions médicales. On voit toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés également. Et le réalisateur François Mété sera avec nous tout à l'heure, on le joindra par téléphone. Il nous parlera des dessous du tournage et des difficultés aussi qu'il a certainement rencontrées au cours de cette aventure. Et puis, vous dire également, mais vous l'avez probablement observé de nos jours, le modèle de la famille dite traditionnelle ou nucléaire s'effrite de plus en plus. D'ailleurs, les familles recomposées représentent presque une norme. La preuve, lors du recensement de 2011 de Statistique Canada, les familles recomposées étaient au nombre de 132 555 et probablement que ça a augmenté là, dans les dernières années. C'est un grand défi, oui, mais sûrement pas insurmontable. Et j'en parle à l'instant avec Julie Gosselin, spécialiste de l'adaptation des familles recomposées, psychologue et professeure agrégée à l'Université Mémorial de Terre-Neuve. Julie Gosselin, bonjour.
Bonjour.
On vous joint loin, là, à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, c'est ça?
Oui, c'est bien ça.
Et il y a un petit décalage horaire. Il est quelle heure chez vous?
Il est 3h30.
Bon, ben, bon après-midi. Julie, je voulais commencer par une citation parce que tout récemment, les éditions du CHU Sainte-Justine ont publié un livre qui s'intitule « Famille recomposée, deuxième édition des escales, mais quel voyage ». Et d'entrée de jeu, on peut y lire des citations d'enfants qui sont issus, en tout cas du moins, qui vivent de famille, dans une famille recomposée. Et il y a Anne-Sophie, 16 ans, qui nous dit « Une famille recomposée, c'est comme des parents qui étaient ensemble et qui maintenant sont divorcés ou séparés et qui, après ça, décident de fonder une autre famille. Mais toi, tu es déjà là, alors t'embarques dans la famille. Est-ce que les enfants sont un petit peu victimes des familles recomposées, Julie Gosselin?
Je ne sais pas si on devrait dire qu'ils sont victimes de cette situation-là. C'est certain que ces transitions familiales, le divorce, la recomposition, communément on appelle ça une transition familiale. Transitions familiales multiples peuvent avoir des impacts à la fois positifs mais aussi négatifs pour les enfants à court terme, dans certains cas à plus long terme.
Mm-hmm. Bon, qu'est-ce qui définit une famille recomposée? Est-ce qu'il y a des caractéristiques à observer?
La définition probablement la plus simple de la famille recomposée, ça serait une famille où au moins un des enfants provient d'une union précédente. Donc, ça veut dire que c'est assez large et ça ne nécessite pas nécessairement de cohabitation comme telle.
Ah, d'accord. Donc, pas besoin de vivre sous le même toit pour être considéré comme une famille dite recomposée.
Non, parce que si on regarde même les familles traditionnelles, des familles peuvent être séparées par toutes sortes de raisons,
ben
par
oui.
exemple le travail d'un des parents, l'école, où est-ce que les enfants des fois vont aller à l'école loin de leur famille. Donc le fait de vivre ensemble n'est pas nécessaire et en fait plusieurs familles recomposées peuvent choisir de passer certains moments ensemble, des fois même des week-ends, mais demeurer quand même avoir chacun leur résidence principale.
Oui, c'est ça. Il y a différents cas de familles recomposées. Je lisais qu'il y a des familles recomposées dites complexes, d'autres simples. Est-ce que c'est une appellation qu'on entend souvent, Julie Gosselin?
Oui, c'est une appellation qu'on utilise surtout en recherche, un peu pour essayer de faire un peu de ménage. La famille recomposée peut devenir très complexe, justement,
ouais.
dans sa structure, surtout quand on voit des familles où il y a eu plusieurs épisodes de recomposition qui se sont suivis. Donc, c'est possible des fois d'avoir des enfants qui sont issus de différentes recompositions. sous le même toit. Donc, on va utiliser famille recomposée simple. En général, quand on parle d'une famille où un seul des conjoints a des enfants issus d'une union précédente, mm-hmm. et famille recomposée complexe, quand c'est plutôt c'est les deux conjoints qui ont chacun des enfants issus d'union précédente.
Julie, bien sûr, les familles recomposées font face à plusieurs défis. Et personnellement, j'ai l'impression que l'un des premiers, bon, c'est personnel comme point de vue, mais vient du deuil. Parce qu'il y a le deuil tout d'abord de cette famille dite traditionnelle, nucléaire, le deuil du précédent conjoint, le deuil de ne pas toujours être en contact avec ses enfants parce qu'il y a la garde partagée. Je me dis, bon, d'entrée de jeu, construire sur un deuil, c'est pas évident.
Non, c'est certain que pour qu'une famille recomposée vienne à exister, il faut qu'il y ait une autre famille qui ait échoué.
Ouais, ben oui.
Donc, c'est certain qu'à ce niveau-là, la notion de deuil, la notion de perte aussi est très importante et c'est quelque chose qui sur lequel il ne faut pas lésiner. Hein. Il faut prendre le temps de vivre ces émotions-là, autant pour les enfants, les parents, que même les beaux-parents, parce qu'on n'est pas, il n'y a pas beaucoup de gens qui grandissent en rêvant un jour de devenir beaux-parents. Alors, ça fait pas partie du script social traditionnel. Donc, c'est des deuils pour tout le monde. En même temps, c'est aussi ce qu'on va appeler il peut y avoir des blessures d'attachement qui sont reliées à ces transitions-là et aussi des défis pour le développement de nouvelles relations d'attachement.
Oui. Évidemment, tout ça doit se faire dans les règles de l'art. J'entends là qu'il y a des étapes à respecter.
Oui, bien, idéalement, on aimerait bien que les gens respectent certaines étapes. Bien sûr, quand on est en amour, mm-hmm. les choses peuvent se précipiter et c'est difficile de dire aux gens, ben, il faut mettre le frein un peu, il faut se donner le temps. Il y a aussi des considérations économiques pour beaucoup de gens. Se remettre en ménage mm-hmm. une deuxième fois plus rapidement, c'est vraiment des considérations financières parce que avoir un deuxième revenu dans le foyer, ça peut faire une très grande différence. Donc, c'est certain qu'il faut reconnaître la réalité de ces familles-là. En même temps, ce qu'on va recommander en général, c'est de laisser le temps au couple d'essayer de pouvoir développer une bonne base solide parce que c'est peut-être un des grands défis des familles recomposées, c'est justement de pouvoir développer cette nouvelle relation de couple qui doit se former dans un contexte où d'autres relations importantes coexistent.
Oui. Bon, je lisais qu'il y aurait une espèce de temps à respecter. Avant un an, ça serait peut-être trop rapide pour présenter le nouveau conjoint, la nouvelle conjointe aux enfants.
Et encore là, c'est sûr que ça dépend de l'âge des enfants, ça dépend de la manière que la séparation s'est faite. Mais oui, en général, ce qu'on va recommander aux gens, c'est ce qui est important de comprendre, c'est quand les gens se séparent, en général, eux ont déjà commencé à faire leur deuil. On sait qu'on va se séparer de notre conjoint, ça fonctionne pas. On a déjà commencé à faire ce deuil-là, à commencer à porter notre regard vers l'avenir. Les enfants, par contre, c'est pas certain qu'eux ont déjà commencé à faire leur deuil. Pour beaucoup, c'est vraiment une surprise, la séparation. Et c'est pas seulement une surprise, mais c'est un choc.
Oui.
Donc, nous, on fait notre deuil et on regarde vers l'avenir. Comme adulte, on aimerait évidemment pouvoir former un couple de nouveau. La plupart des gens le souhaitent. Mais nos enfants sont encore en train de vivre ce deuil. Donc, c'est important de pouvoir leur donner le temps de vivre ces émotions-là, de perte, de pouvoir résoudre ces blessures d'attachement-là avec chacun des parents, de pouvoir s'adapter aussi à la nouvelle réalité, de vivre dans une famille où on a deux chez soi, il y a plusieurs routines qui vont changer, et d'introduire lentement cette nouvelle personne-là. De toute façon, la famille recomposée, comme on dit, pour le couple, c'est la famille instantanée. Donc, c'est pas une mauvaise chose de prendre son temps, de protéger ce temps de couple-là où l'enfant n'est pas encore inclus le plus mm-hmm. longtemps possible pour permettre au couple vraiment de se développer et de devenir un couple solide.
Oui, parce que l'enfant, il ne choisit pas ça. Le nouveau conjoint, la nouvelle conjointe choisit de s'engager avec quelqu'un qui a déjà des enfants, de dire « OK, je tente cette expérience-là », tandis que l'enfant, ben lui, ben, il vit avec ça, là, cette nouvelle réalité.
Oui, ça lui est imposé. Hein, c'est, de toute façon, on est obligé comme enfant dans cette situation-là de vivre avec des quasi-étrangers. Chose qui est vraiment à l'encontre du script social traditionnel dans la manière qu'on définit la famille. Donc, c'est certain que ça demande un grand ajustement, et surtout quand ça fait suite aux grands ajustements qui est la séparation ou le divorce, c'est des très gros ajustements. Donc, c'est en demander beaucoup aux enfants de faire face à ces différentes tempêtes, si on veut. Et donc, ça vaut la peine de se donner le temps. Et puis, aussi, c'est bien aussi parce que de laisser le temps au couple de se former et ensuite d'introduire tranquillement notre nouveau conjoint, parce que ça permet à l'enfant aussi de développer une relation de qualité avec cette personne-là avant que ça devienne un coloc.
Oui.
Donc, si la transition peut se faire aussi plus facilement, et l'enfant, à un certain niveau, peut même commencer à avoir même hâte un peu que ce nouveau parent-là fasse partie du quotidien s'il y a une bonne entente.
Quelle est l'attitude à privilégier pour le beau-parent? Ce que l'on entend souvent, c'est l'attitude de l'oncle ou de la tante, et non pas tout de suite d'entrée de jeu du parent qui fait de l'autorité et de la discipline.
Oui, c'est très difficile pour un beau-parent de s'imposer très rapidement, à moins que les enfants soient très jeunes. Les enfants n'ont pas l'habitude de prendre cette nouvelle autorité-là, d'accepter cette nouvelle autorité-là comme ça, comme si de rien n'était. Les enfants ont évidemment leurs allégeances et vont un peu avoir l'attitude de même, pour qui tu te prends, là. Donc, c'est important, je pense, pour les beaux-parents de pouvoir, dans le fond, développer leur autorité à la longue, parce que ils ont démontré qu'ils sont des adultes de confiance, qu'ils sont des adultes responsables, qu'ils sont de bons, de bons lieutenants pour le parent. Et là, éventuellement, le jeune va voir, cet adulte-là, je dois le respecter, je dois vraiment prendre en considération son opinion. C'est sûr que quand le beau-parent est en charge seul des enfants, il n'y a pas le choix. Il faut qu'il démontre une certaine autorité. Mais sinon, c'est probablement une bonne chose pour lui, d'attendre de mériter, si on veut, ce respect-là par ses actions.
Oui. Julie Gosselin, vous êtes spécialiste de l'adaptation des familles recomposées. Également, la seule spécialiste au pays à s'intéresser particulièrement au rôle de la belle-mère, qui, selon vous, est peut-être le rôle le plus délicat de la famille recomposée.
Oui, c'est un rôle, je pense, qui est assez délicat, parce que le rôle de beau-parent est délicat et il est très ambigu. Il n'y a pas vraiment de script, là. J'utilise ce mot-là souvent, mais c'est parce que c'est un mot qui est important quand on parle de famille recomposée. Donc, c'est pas clair ce que c'est un beau-parent. Et en particulier, je pense, pour la belle-mère, on la définit surtout par la négative, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être une sorcière, elle ne doit pas non plus remplacer la mère. Donc, en bout du compte, si on se définit beaucoup par la négative, parce qu'elle ne l'est pas ou ce qu'elle ne doit pas être, ce n'est pas clair vraiment ce qu'elle doit être.
Oui, oui. C'est difficile de se définir par la négative, en effet. Et j'ai l'impression aussi que la pression que l'on donne à la belle-mère vient peut-être de la pression qu'on donne au rôle de la mère, là, dans une famille autant nucléaire que recomposée.
La mère est très importante dans notre société et dans bien d'autres sociétés, et a raison. Elle a un rôle vraiment central dans la famille. Et en général, on s'attend à ce que les femmes, peu importe la structure familiale, donnent le ton émotif, si on veut, à la famille. Donc, on met beaucoup d'attentes du côté de la mère et des femmes en général, si on veut, de pouvoir réguler la famille. Or, c'est difficile de le faire pour la belle-mère quand on lui dit, mais il faut... Comme femme, c'est vraiment ce qu'on s'attend de toi, mais en même temps, fais très attention de ne pas empiéter sur le territoire maternel. Donc, c'est un peu de avance-recul. Comment est-ce que je peux faire un peu les deux? Parce que c'est deux, si on veut, deux attentes qui sont passablement incompatibles.
Oui, et j'imagine que la difficulté est là, autant pour la belle-maman que pour le beau-papa, c'est tout l'amour qui vient pour ces enfants-là, c'est-à-dire que lorsqu'on est un parent dit biologique, une espèce d'amour là, qui vient d'entrée de jeu lors de la naissance de nos enfants, l'attachement parental se crée, mais avec nos beaux enfants, comme on pourrait les nommer aujourd'hui, ça vient pas de façon si automatique.
Non, ce n'est pas nécessairement automatique, et c'est important de le reconnaître, parce que je pense que ça fait partie des mythes et des attentes aussi qu'on met par rapport aux beaux-parents qui devraient avoir cette espèce d'amour inconditionnel, instantané, comme dans une relation biologique ou une relation peut-être d'adoption, par exemple, où est-ce que cet enfant-là est vraiment désiré, voulu. Dans le cas des beaux-parents, c'est comme l'enfant qui n'a pas choisi son nouveau beau-parent. Le beau-parent non plus n'a pas choisi son nouveau bel-enfant.
Ouais.
Donc, là aussi, ça demande un certain apprivoisement. Ça demande de pouvoir investir dans cette relation-là afin que celle-ci devienne une relation de qualité.
Julie Gosselin, comment on peut préserver notre couple dans l'aventure de la famille recomposée?
Oui. Et c'est d'ailleurs probablement, à mon sens, la chose la plus importante, parce que sans couple, la famille va foutre le camp.
Voilà.
Donc, c'est vraiment, vraiment important. Je pense, premièrement, pour les parents biologiques, c'est important pour eux de faire le deuil de leur relation avec leur ex-conjoint, ne pas apporter ces vieux fantômes dans la nouvelle relation, mais en même temps, de négocier une nouvelle relation avec l'ex-conjoint afin de poursuivre l'engagement commun d'être parent. De pouvoir faire ce travail-là au niveau relationnel, ça crée beaucoup plus d'espace pour avoir une nouvelle relation de couple, ou est-ce que ça ne sera pas tout enchevêtré dans, si on veut, les restants de cette autre relation-là, ou qui n'a peut-être pas été complètement négociée, régulée, dans laquelle on n'aura pas fait entièrement le deuil. Pour la relation de couple, dans la famille recomposée, c'est important de pouvoir vraiment mettre ça en priorité au quotidien. Je pense que pour beaucoup de couples, on vit en couple une semaine, par exemple, quand les enfants sont pas là, et là, l'autre semaine, on vit comme si on était un peu des parents et on met le couple de côté. Je pense que ça, c'est peut-être une erreur, bien que bien les parents, évidemment, vivent difficilement le fait de ne pas vivre avec leur enfant à temps plein. Ils sont en couple quand même à temps plein. Et c'est important de ne pas nécessairement mettre le couple en veilleuse quand les enfants sont là, mais plutôt de l'intégrer à la famille. Ça aide ça aussi au niveau de développer une belle cohérence et pouvoir développer un nouveau sentiment d'identité familiale.
Oui, et j'imagine aussi, c'est de préserver la relation aux yeux des enfants. Et j'entends par là pour, par exemple, le papa, de valoriser la belle-maman aux yeux des enfants quand ben, les situations se proposent là.
Oui, exactement. Le parent biologique a un rôle excessivement important dans la famille recomposée parce que c'est lui qui doit transiger avec tous les membres. Il transige avec les enfants, son conjoint ou sa conjointe, son ex-conjoint ou son ex-conjointe. Donc, il doit devenir un peu le diplomate de la famille. Et ça, c'est pas évident pour beaucoup de gens de pouvoir développer ces belles compétences-là de communication interpersonnelle. Mais ces gens-là qui sont capables de le faire ont généralement beaucoup moins de difficultés dans leur relation au quotidien, capables de cultiver une relation de couple qui va être plus durable, aussi de pouvoir coparenter avec son ex-conjoint de façon compétente et d'avoir des relations harmonieuses avec ses enfants. Donc, c'est quelque chose vraiment à investir comme parent, de développer ces compétences de diplomatie.
Julie, en terminant, on a parlé au cours de cette discussion des parents, des beaux-parents, des enfants, des beaux-enfants du couple. Il y a aussi les grands-parents. On les oublie peut-être un petit peu, mais ils ont un rôle. Bon, eux aussi ne choisissent pas. Leur famille est modifiée. Est-ce qu'ils jouent un rôle important dans la famille recomposée?
En fait, on sait peu de choses sur les grands-parents dans les familles recomposées. Très peu de recherches se sont intéressées à eux. Ce que l'on sait, par contre, c'est les quelques recherches qui ont porté là-dessus, c'est que les grands-parents peuvent jouer un rôle au niveau de la continuité avec le lien que la famille élargit. Donc, ils peuvent jouer un rôle très important à ce niveau-là. Quand les enfants, évidemment, les parents se séparent, ils peuvent perdre un peu accès à certains membres de leur famille élargie, tout dépendant des types de garde et du niveau plus ou moins acrimonieux des relations entre les ex-conjoints. Et souvent, les grands-parents peuvent jouer un rôle pour essayer de maintenir ces relations-là. On peut voir aussi que avec la recomposition familiale, on peut avoir de nouveaux beaux grands-parents.
Ben oui.
et ces beaux grands-parents-là peuvent aussi jouer un rôle important pour développer une nouvelle identité familiale avec la famille recomposée.
Bien, c'est bien intéressant de se pencher sur la famille recomposée. Je pense personnellement que la famille est la première institution de notre société. Et bien, comme elle est vraiment sujet à plusieurs changements là, de nos jours, bien, c'est intéressant qu'il y ait des spécialistes qui se penchent sur la famille recomposée, qui, comme je le disais tout à l'heure d'entrée de jeu, est presque une norme de nos jours. Julie Gosselin, spécialiste de l'adaptation des familles recomposées, psychologue et professeure agrégée à l'Université Mémoriale de Terre-Neuve. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous parler.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
François Mété, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le réalisateur de la série de garde 24-7 diffusée à Télé-Québec depuis le 7 septembre. Et je le disais tout à l'heure, François, cette série réunit tous les ingrédients gagnants à un bon show de télé, disons-le comme ça.
Merci.
C'est humain, c'est captivant, c'est instructif, il y a du suspense, il y a du sang même, hein, on peut s'en douter. Et ce qui me percute à chaque fois, François, c'est de voir à quel point c'est humain. Je finis toujours, à un moment donné ou l'autre, d'avoir un petit peu la larme à l'œil. Et pourtant, c'est la réalité, non pas de la fiction. Est-ce que vous vous attendiez à ça?
À quoi? Est-ce que les gens soient touchés?
Oui.
Ben oui, quand même, parce que je l'ai vécu moi aussi. Je veux dire, en le filmant, moi, j'ai été touché par ces histoires-là. D'abord, j'ai été touché par la réalité des médecins, mais évidemment, en entrant en contact avec les patients, tout de suite, j'ai été touché par ce qui leur arrivait. Donc, au tournage, on était touché. En montage, on était touché à nouveau. Donc, j'espérais bien que les spectateurs le seraient à leur tour.
On peut lire là, dans ce que j'ai pu lire par rapport à la série de garde 24-7 qu'il y a à peu près 90 % des gens que vous avez filmés dans les murs de l'hôpital Charlemagne qui ont accepté que l'on diffuse les moments passés en famille ou avec leur médecin.
Oui, absolument. Mais ça a été une surprise, je vais vous dire. Je pensais pas qu'au départ, quand on a entamé ce projet-là, je pensais qu'on se limiterait beaucoup plus aux médecins et que quand viendrait le temps de rentrer dans les chambres des patients ou dans les cabines aux urgences, on serait limité par la pudeur des patients, finalement, ou par juste leur besoin de priver. Puis finalement, en fait, c'est le contraire qui s'est passé. Les patients semblaient contents. Qu'on s'intéresse à eux, qu'on s'intéresse à ce qui se passait avec les médecins. Et au départ même, moi, j'hésitais à rentrer dans les chambres, à leur demander, puis pour me rendre compte que finalement, c'était pas du tout un problème. Il y a même une patiente, à un moment donné, c'était un cas un peu extrême, mais c'est là que ça m'a le plus frappé. On était aux urgences et il y a une dame qui était pas bien du tout dans une cabine. Et en fait, c'était une dame qui était très malade et qui allait vraisemblablement mourir bientôt. Et tout le monde était quand même assez engagé dans cette histoire. Les médecins s'en occupaient, les infirmières. C'était une dame qui était assez jeune aussi. Donc, ça m'intéressait évidemment de comprendre ce que les médecins vivaient à ce moment-là, parce que je voyais bien qu'ils étaient affectés par ça. Mais en même temps, j'étais très gêné, moi, d'aller parler à ces gens-là dans la cabine, leur dire qu'on faisait de la télé alors qu'ils étaient à ce moment-là de leur vie. Mais à un moment donné, le conjoint de la dame aperçoit la caméra qui était à l'extérieur de la cabine, mais qui ne les filmait pas eux. Et donc, je me dis, bon, ben, je vais aller lui expliquer un peu qui on est et qu'est-ce qu'on fait pour pas qu'ils se posent de questions. Et en parlant avec la personne, je me rends compte que finalement, peut-être que la collaboration serait envisageable, mais je leur dis, mais ne vous inquiétez pas, on ne verra jamais votre conjointe dans cet état-là. Et puis, cette dame-là, qui était encore consciente à ce moment-là, s'est manifestée. Et puis, c'est elle qui nous a dit qu'elle aimerait qu'on la filme, qu'elle aimerait faire partie de ce moment-là. Et c'est là que j'ai compris finalement que la pudeur, j'en avais beaucoup plus que même les patients pouvaient en avoir finalement.
Et pourquoi François Mété? Parce que c'est une façon pour ces patients-là d'avoir une voix finalement?
Ben peut-être. C'est sûr que je ne leur ai pas posé la question comme telle, mais moi, mon hypothèse, c'est ça. C'est qu'évidemment, il y a des patients qui ne voulaient pas, hein, puis ça, on a respecté ça, puis on n'a pas insisté, mais la majeure partie des patients qui acceptaient, je pense que c'est parce que ce moment-là de leur vie est un moment important. C'est pas un moment qui est superficiel, c'est un moment qui est au cœur de ce qui est important pour eux, et c'est un moment dans lequel ils existent. Et je présume que finalement, ils se disaient, ben, il y a une caméra qui est sur mon chemin à ce moment-là de ma vie, je ne vais pas la sortir. Oui. Je vais juste accepter ce moment-là puis juste exister finalement à travers ces yeux-là. Puis le regard qu'on posait sur les médecins, sur les patients, je pense que les gens le sentaient en général, étaient très respectueux. Mm-hmm. Là. Les infirmières nous accompagnaient. On sentait qu'on avait l'appui des infirmières, qu'on avait l'appui des médecins. Les patients le sentaient, ça. Qu'on n'était pas des intrus finalement, qu'on faisait partie un peu de tout ça. Là.
François, ce que j'entends également de mon entourage, je travaille évidemment avec beaucoup de médecins par rapport à cette émission. Il y en a dans ma famille également qui me disent « c'est extrêmement réaliste ». C'est comme ça notre quotidien à l'hôpital, aux urgences, dans le service des soins intensifs. Comment vous avez fait pour capter cette vérité-là? J'imagine que ça vient d'une collaboration très, très étroite avec les médecins.
Ah oui, tout à fait. Moi, le choix des médecins était au cœur de notre travail. En fait, c'était nous qui choisissions les médecins, mais c'était les médecins qui nous choisissaient aussi. Hein. Il fallait trouver des médecins qui avaient envie de collaborer à un projet comme celui-là, qui allaient nous laisser entrer dans leur vie, puis qui allaient nous laisser les suivre. Et donc, je voulais pas être un boulet, là, finalement. Mm-hmm. Hein. Je voulais que les médecins acceptent cette présence-là, puis qu'ils nous oublient, qu'ils m'oublient. Puis en fait, ce qui est arrivé, c'est que plus ils étaient occupés, plus ils nous oubliaient.
Et on le voit, sont occupés souvent.
Plus c'était facile de les suivre. Donc, les moments les plus chargés, finalement, les plus vrais, sont souvent les plus occupés. Et c'est là qu'ils nous oublient. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, vous le savez bien, les médecins sont entourés d'une myriade de gens. Là. Il y a plein de gens autour d'eux. Donc, d'avoir une ou deux personnes de plus, c'était pas nécessairement un fardeau pour eux. Là.
Mais des caméras, vous en avez mis partout dans l'hôpital, François Mété. Lorsqu'on voit un médecin appelé d'urgence qui court dans les escaliers, il n'y avait pas un caméraman qui suivait dans les marches d'escalier?
Bien, on était en permanence avec eux. Il y avait des journées qu'on choisissait et on passait une journée avec un médecin et là, advenait ce qu'il advenait. On n'avait pas de contrôle là-dessus. Mm-hmm, mm-hmm. Et quand ils partaient à courir dans l'escalier, bien, on partait à courir dans l'escalier avec eux, nous aussi. C'était comme ça. Quand ils allaient d'urgence en salle de choc, eh bien, on les suivait sans savoir nécessairement d'avance ce qui allait se produire. Là.
Oui. Cette équipe de médecins-là, je le disais en introduction tout à l'heure, 8 médecins spécialistes ont vraiment joué le jeu, la carte très, très transparente. Et on apprend d'eux qu'ils sont très, très humains. Est-ce que c'était ça que vous aviez envie de montrer à travers la série 24/7, François Mété?
Ben oui, moi, en fait, ce que j'avais envie, c'est de raconter des histoires. J'avais envie de suivre ces médecins-là, puis vivre le quotidien avec eux et comprendre un tout petit peu quels sont les enjeux de ces médecins-là, comment ils vivent ces moments-là. Alors, parfois, ils les vivent de façon triste. Des fois, ils peuvent être très émus encore par les cas qui les touchent. Mais des fois, ils peuvent être dans le doute, dans le stress, parfois dans la valorisation, puis dans le plaisir du travail bien fait. Ils vivent toutes sortes d'émotions, en fait, ces médecins-là. Donc, moi, j'avais envie de raconter les histoires qui suscitaient ces émotions-là chez eux et puis, finalement, transporter le spectateur de l'autre côté du mur. Finalement, nous, on est là, on attend, on se dévoile, nous aussi, en tant que patient. Là, aux yeux du médecin, on est souvent nus, on se fait examiner, ils connaissent tout de nous, ou rapidement, ils rentrent dans notre intimité, mais nous, on connaît rien d'eux. Oui. Et donc, là, l'idée, c'est d'essayer de voir un petit peu si on pouvait renverser un peu le balancier, puis rencontrer ces gens-là, finalement, connaître qui ils sont, comment ils travaillent, qu'est-ce qui les anime. Parce que tôt ou tard, on va tous les rencontrer.
On va y passer.
À l'hôpital.
De garde 24/7, oui, j'en perds mes mots, est diffusé tous les lundis à 19h30 sur Télé-Québec. Oui, moi, je l'écoute sur Zone Vidéo, François Mété.
Oui, c'est en rediffusion sur le site de Télé-Québec, c'est vrai.
Et le temps file, mais on espère, on se croise les doigts pour une deuxième saison, François Mété. Merci beaucoup.
C'est bien gentil, merci.
Au revoir.
Bonne journée.
Mathieu Tessier à la mise en onde, Marianne Paquette au micro, Christiane Campagna à la recherche. Merci d'avoir été là. Puis nous, on se retrouve demain, mardi, 14h. Soyez-y. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.